nous rejoindre dans quelques instants sur ce plateau, mais avant cela, essayons de mieux la connaître. Nathalie Arthaud, candidate lutte ouvrière, se présente pour la deuxième fois à l'élection présidentielle. Cette professeure d'économie et de gestion a succédé à Arlette Laguiller. Créditée de 1% dans les sondages, elle veut porter la voix des travailleurs. Fanny Salut.
Alors, c'est difficile hein, de succéder à Arlette, mais ce que je me dis aussi, c'est que Arlette, elle a vraiment ouvert la voie. Et en tout cas, moi, j'ai envie d'aller sur cette voie-là et de défendre haut et fort les idées communistes révolutionnaires.
Nous sommes en 2009. Nathalie Arthaud fait ici sa première rentrée politique en tant que porte-parole nationale de lutte ouvrière. Quelques mois plus tôt, elle a succédé à celle qui s'est présentée 6 fois consécutives à l'élection présidentielle, l'emblématique Arlette Laguiller. L'héritage semble donc un peu lourd, malgré un engagement politique dès ses 18 ans. Agrégée d'économie et de gestion, Nathalie Arthaud doit alors jongler entre ses nouvelles fonctions, son métier de professeur qu'elle exerce depuis ses 26 ans et son mandat de conseillère municipale à Vaux-en-Velin qu'elle occupera jusqu'en 2014. En 2012, elle se présente à l'élection présidentielle et recueille 0,56% des voix, puis s'engage dans la 6e circonscription de Seine-Saint-Denis, où elle obtiendra près de 2,5% des suffrages exprimés. Nathalie Arthaud est aujourd'hui la seule candidate à continuer de travailler pendant la campagne présidentielle.
Vous venez de la voir dans ce portrait, elle nous a rejoint sur ce plateau pour notre émission spéciale consacrée à l'élection présidentielle. Tout de suite, c'est l'interview dans Question de méthode. Nathalie Arthaud, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes candidate lutte ouvrière à l'élection présidentielle. Bonjour Vincent Mangin.
Bonjour.
Merci de nous avoir rejoint sur ce plateau. Merci d'avoir accepté, Nathalie Arthaud, notre invitation sur LCP et France Bleu, notre partenaire dans Question de méthode. Vincent Mangin va vous interviewer avec moi. Pendant un quart d'heure, nous allons soulever les problématiques régionales grâce aux remontées des locales de France Bleu. Et c'est vous, Vincent, qui commencez. Vous posez la première question qui nous vient de France Bleu Alsace.
Effectivement, en Alsace, et je pourrais dire que c'est pas seulement l'Alsace qui est concernée par cette affaire. Il s'agit de la restructuration du groupe MIM, qui est un groupe de prêt-à-porter, de magasins. Il y a une reprise par un repreneur suisse de ce groupe qui était détenu par des Chinois. Et il se trouve que 800 salariés vont être mis à la porte et que l'on va fermer près de 300 magasins. Alors, pour ce qui concerne l'Alsace, il y avait quand même 7 magasins sur l'ensemble de cette région. Il n'en restera plus que 2 à Agneau et à Saint-Louis. C'est une question très simple, Nathalie. Est-ce que dans ce genre d'affaires, dans ce genre de restructuration, comme on les appelle plus globalement, l'État doit-il intervenir ?
Et il doit demander des comptes, effectivement, à tous ses repreneurs. Bon, là, il s'agit d'une société hongkongaise. En fait, c'est une société d'investissement hein, qui, je crois d'ailleurs, fait beaucoup d'argent dans l'immobilier. Donc, c'est un groupe richissime, hein, Main Asia. Et effectivement, il a décidé de retirer ses billes hein, de ce secteur où, effectivement, il considère que c'est pas assez rentable, etc. Donc, il faut demander des comptes. En tout cas, moi, je suis complètement solidaire du mouvement dans lequel... Les employés se sont engagés parce que le minimum, c'est de maintenir effectivement leur salaire, hein, de maintenir leur salaire et encore une fois, de faire la transparence sur les comptabilités. Ils s'interrogent, là, les syndicats, sur le fait que le fournisseur hein, aurait imposé des prix très élevés et aurait en partie siphonné l'argent, effectivement, de mime hein, de l'enseigne. Donc tout ça, oui, il faudrait imposer la transparence sur les comptes et faire en sorte que ce soit ces grands groupes et les fortunes hein, qui prospèrent sur le travail de ces salariés qui soient mises à contribution.
Mais pour revenir à la question de Vincent, Nathalie Arthaud, vous demandez des comptes, mais vous voulez carrément interdire les licenciements, c'est écrit dans votre programme.
Oui, il faudrait maintenir les emplois, maintenir les salaires.
Quelle est réellement la marge de manœuvre de l'État dans une société privée qui souhaite licencier ?
Mais c'est effectivement le problème qu'il y a un bras de fer à mener avec ces grands groupes capitalistes, qu'il faut être prêt effectivement à aller jusqu'à les menacer d'être expropriés, d'être réquisitionnés, parce que sinon on est en permanence soumis soumis à leurs choix dont on sait pertinemment que c'est des choix pour augmenter leur fortune, leurs dividendes, et qu'ils n'ont que faire des emplois et de développer les investissements.
Ça ne peut pas être des choix stratégiques. Donc, parfois, quand une entreprise fait moins de bénéfices, elle ferme une usine pour en ouvrir une peut-être ailleurs et réembaucher derrière.
Non, mais c'est toujours du point de vue d'une minorité capitaliste. C'est jamais du point de vue des intérêts de la société, de la population, des consommateurs et des travailleurs. Donc effectivement, moi je dis oui, il faudrait interdire les licenciements dans ces grands groupes, répartir le travail entre tous et aller jusqu'au bout de ce combat, c'est-à-dire être prêt à dire bah, écoutez, ça ne vous va pas, vous ne jurez que par vos profits, que par votre rentabilité, et bien...
Que vous appelez le grand capital finalement. Mais s'il n'y avait pas d'actionnaires, il n'y aurait peut-être pas d'entreprise, il n'y aurait peut-être pas d'emploi.
Ce capital, ce grand capital qui est concentré à un pôle dans les mains de quelques dizaines, centaines de milliers de grands bourgeois riches à l'échelle du monde, il a été accumulé sur le travail de centaines de milliers, de millions de femmes et d'hommes. Ce capital, pour moi, il devrait appartenir à la collectivité depuis déjà bien longtemps. Il s'est fait sur l'exploitation de générations de travailleurs. Et aujourd'hui, on nous dit que c'est privé et c'est à une minorité de décider où ils mettent leurs pions et comment ils organisent tout ça. Mais moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Moi, je suis effectivement communiste. Je pense que ces grands moyens de production, il faudrait les gérer collectivement.
Et là, Marie-Marteau, oui. Est-ce que vous avez un exemple? Parce que c'est intéressant ce que vous nous dites. C'est finalement changer complètement la règle du jeu.
Oui.
Mais est-ce qu'on a un exemple d'une contrainte menée par un État pour dire à une entreprise « Mais non !» Non, vous ne licenciez pas. Non, vous ne fermez pas vos magasins.
Alors,
finalement, on a l'impression que le monde libéral continue tranquillement son chemin sans qu'il y ait aucune incidence de la part des actions de l'État.
Là-dessus, je suis d'accord. Ça ne viendra pas de l'État comme ça. Non, ça viendra effectivement d'une pression d'en bas, de l'ensemble du monde du travail, qui pourra effectivement peut-être tordre le bras à ceux qui gèrent l'État et qui ne veulent pas mettre de contraintes ou mener ce genre de politique radicale. Mais tout dépend effectivement d'une poussée du monde du travail. Moi, c'est à cela que j'appelle. Je sais pertinemment que, y compris ce qui se passe en Guyane aujourd'hui, n'aurait pas eu lieu, cette discussion, et l'État n'aurait pas mis sur la table, y compris le milliard là, qu'il propose, s'il n'y avait pas eu cette levée en masse de la population, cette mobilisation générale. Donc moi, je sais, et dans cette élection, d'ailleurs, je le dis, s'il ne suffira pas du bulletin de vote, il faut lever le drapeau des luttes collectives, renouer avec une pression par en bas, puissante. Sinon, on n'obtiendra rien.
Une question de France Bleu Toulouse à présent.
Alors Toulouse, où se trouve un fleuron de l'aéronautique, évidemment Airbus. Airbus a changé de patron tout récemment. Et ce patron a changé aussi la règle du jeu. En disant finalement, aujourd'hui, vous avez certes un carnet de commandes qui est plein, mais ce n'est pas parce que vous avez un carnet de commandes qui est plein qu'on ne va pas restructurer l'entreprise. Et donc, au niveau européen, on se retrouve avec un plan Gemini qui prévoit 1164 suppressions d'emplois à travers l'Europe. Moins de moyens pour la recherche et le développement, moins de travail pour les sous-traitants. Là encore, est-ce qu'on peut parler de contraintes sur Airbus Group pour qu'il renonce à cette stratégie? On a l'impression, encore, que finalement, ce monde économique vit en toute liberté. Et choisit décide de ce genre de choix.
C'est bien que ce que je dénonce. Je dénonce une véritable dictature de ceux qui possèdent les capitaux et qui gèrent les entreprises comme un espèce de grand casino. Ils mettent leurs pions ici et les travailleurs dans tout ça, effectivement, ils sont ballottés. Ils sont vendus, ils sont rachetés, ils sont mis à la porte, etc. Et ni l'intérêt des salariés, ni l'intérêt des travailleurs, ni l'intérêt d'ailleurs de la population, des usagers, des consommateurs,
faudrait...
des prix en ligne de compte.
Vous voudriez qu'il faudrait plus de nationalisation. Quel groupe, par exemple, pensez-vous qu'il faudrait nationaliser en
Moi,
France ?
Moi, je suis communiste et je pense qu'effectivement, ces grands moyens de production de l'aéronautique, de les grandes chaînes de distribution, de l'énergie, les grands groupes industriels et financiers, bancaires, devraient être gérés collectivement, effectivement, par les salariés, des représentants de la population.
Donc on nationalise toutes les entreprises du CAC 40
On les exproprie, parce que moi, je ne pense pas qu'il faille payer, effectivement, parce que, voilà, encore une fois, je l'ai dit, ces capitaux, en fait, c'est le fruit de notre travail à tous depuis des décennies. Et je pense qu'il faudrait les gérer collectivement et qu'on les gérerait mille fois mieux. Et que là, oui, on pourrait parler véritablement d'investissement.
Expropriation, parce que, ça veut dire quoi, très simplement,
Expropriation, ça veut dire que c'est grands groupes capitalistes appartiennent effectivement à l'ensemble de la société, à l'ensemble de la société, que ce n'est plus propriété privée des grandes familles bourgeoises, hein, parce qu'en réalité derrière ça il y a des grands noms, hein, c'est Arnaud pour la France, Madame Bettencourt, c'est Drahi, c'est Dassault, c'est Michelin, c'est tous ces grands noms qu'on connaît très bien, Peugeot, et alors bien sûr, bah, ils ont leur propriété privée, comme tout un chacun, n'est-ce pas? Mais ils n'ont plus la main sur ces grands groupes. Et ce n'est plus eux qui décident, en fonction de leurs intérêts égoïstes, de la politique de ces grands groupes.
Il y a aussi un vrai problème concret qui est le chômage en France. Est-ce que vous pensez qu'il faut en venir à la semaine de 32 heures, par exemple, pour régler une partie de ce problème?
Moi, je pense qu'il faudrait répartir le travail entre tous, parce que c'est encore...
Combien d'heures vous pensez ?
C'est une folie, mais jusqu'à ce qu'il y ait zéro chômeur, tout simplement. C'est-à-dire que dans une société qui vraiment fonctionnerait pour l'intérêt de tous, eh bien, on aurait ce réflexe de dire on se répartit la tâche de travail, on se répartit le fardeau, on s'entraide et tout le monde participe à l'activité productive.
Et donc, du coup, on met un revenu universel en face.
Donc, on se sert des profits qui sont réalisés, qui sont générés par ces entreprises et par Airbus, c'est incroyable, par tous ces grands groupes, c'est des milliards de profits, on se sert de cet argent-là pour répartir le travail, donc pour soulager ceux qui sont en emploi et qui aujourd'hui sont pressés comme des citrons, hein, et pour effectivement que les jeunes qui désespèrent d'avoir un boulot, pour que ceux qui sont invalides...
Est-ce qu'on leur donne un revenu universel pour avoir un revenu décent si on baisse les heures de travail?
On leur donne un travail.
Donc on baisse un peu le salaire, on partage les richesses?
Pas du tout, non, on baisse surtout pas le salaire.
On conserve le salaire, mais on travaille beaucoup moins.
Bien sûr.
Parce que vous dites qu'on réduit jusqu'à ce que tout le monde ait un emploi.
Exactement. C'est-à-dire on participe tous à l'activité productive et on a tous un salaire qui permet de mener une vie décente. Et pour moi, un salaire qui permet de mener une vie décente, eh ben, il ne doit pas être inférieur à 1 800 euros net par
mois. C'est le salaire minimum que vous proposez dans votre programme.
Voilà.
Une question de France Bleu Nord, Vincent.
Alors, qui n'a rien à voir avec ces questions économiques, il va voir tout simplement à la question des migrants. En tout début de semaine, on a retrouvé 6 migrants sur un canot à la dérive dans le détroit du Pas-de-Calais. Ils étaient là en pleine nuit, ils avaient tenté de gagner l'Angleterre comme d'autres avant eux. Alors, dans le secteur du Nord, dans le Pas-de-Calais, il y a toujours beaucoup de monde, puisqu'il y a encore 1500 migrants toujours installés à Grande-Synthe, dans un camp. Le problème existe toujours, il n'est pas réglé. Qu'est-ce que vous envisageriez de faire vis-à-vis de ce problème des migrants? On sait que vous êtes pour une ouverture des frontières, un accueil généralisé. Dans ces cas concrets, qu'est-ce que l'on fait?
Là, en l'occurrence, je suis pour ouvrir effectivement la frontière, parce que ce qui est fou, c'est qu'ils veulent partir. En réalité, ils veulent rejoindre la Grande-Bretagne, c'est ça. Et ce qui est impressionnant, c'est que l'État français dit « on ne les veut pas sur notre territoire », mais on les empêche, y compris, de le quitter. Alors, c'est complètement ubuesque. C'est complètement ubuesque. Où ces femmes et ces hommes ont-ils le droit de vivre? Ils ont une place sur la planète? Moi, c'est la question que je pose. Donc, je trouve cette politique, effectivement, honteuse, criminelle, parce qu'on sait très bien que ce sont des survivants, hein, qu'ils ont déjà eu la chance, effectivement, ils ont déjà risqué leur vie, hein, en franchissant la Méditerranée. Et là encore, ils doivent risquer leur vie, hein, parce que effectivement, il y a ces barbelés, il y a ces miradors, il y a ces fossés qu'on creuse, il y a tous ces murs qu'on élève. Donc je trouve ça complètement indigne. Et ce qui est dingue, c'est que justement, y compris ces femmes et ces hommes, ils ont de la famille, ils ont des gens qui sont prêts à les accueillir, à les aider, etc.
Ça, c'est pour les réfugiés.
Côté de la Manche.
Pour l'immigration légale, est-ce qu'on accepte aussi toutes les demandes?
Mais moi je suis pour la liberté de circulation et d'installation. Parce que vous savez, aujourd'hui...
Mais est-ce qu'on peut les accueillir en France?
Mais bien sûr qu'on peut les accueillir en France. Et moi, je ne supporte pas ces discours consistant à dire on ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Parce que quand on regarde ce qui se passe dans les quartiers bourgeois, l'argent coule à flot. Les caprices de riches, mais c'est des dizaines, c'est des centaines de millions. Et la spéculation, n'en parlons pas, c'est des centaines de milliards. Donc l'argent existe. Et je tiens quand même aussi à dire aux travailleurs, aux chômeurs ici qui se posent des questions et qui se disent « mais enfin, il y a déjà plus de travail pour nous », que ce n'est pas les migrants qui créent ce chômage de masse. C'est justement ces fermetures d'usines, ce sont ces licenciements, c'est une politique patronale qui est effectivement féroce contre les travailleurs. Et je tiens aussi à leur dire qu'aujourd'hui, les réfugiés sont des Érythréens, des Soudanais ou des Syriens. Mais demain, qui dit que ce ne sera pas nous et que nos enfants n'auront pas besoin de circuler, de bouger aussi pour aller trouver du travail? Donc cette liberté-là, il faut l'accorder à tous.
Sur la question des Syriens, restons sur la question des Syriens. Il y a quelques jours, on nous disait qu'il y avait 5 millions désormais de Syriens qui étaient réfugiés. Donc un quart de la population syrienne qui devient réfugiée. C'est colossal. Donc le phénomène n'est pas simplement dans le détroit du Pas-de-Calais, il est plus global, il est européen. Vous dites on doit ouvrir nos frontières, on peut accueillir combien de réfugiés en France ?
D'abord, la plupart, je n'ai pas les chiffres, mais peut-être 80% sont où ? Sont en Turquie, sont au Liban, sont dans la région, c'est ça en réalité, dans des camps infâmes où leur vie elle est mise juste entre parenthèses. Depuis des années et des années, l'Europe, c'est un continent de 500 millions de femmes et d'hommes. Qu'on ne nous fasse pas croire que, effectivement, permettre à quelques centaines de milliers de femmes et d'hommes de trouver un refuge temporaire, y compris, parce qu'ils ont fui contraints et forcés, les bombes. Et vous savez, moi, y compris cette idée de dire, de toute façon, on met des murs, c'est très démagogique. Parce que la réalité, c'est que tant que ces femmes et ces hommes auront des jambes, l'énergie pour avancer, ils chercheront à sauver leur peau et celle de leur famille. Et nous ferions exactement la même chose dans la même situation. Et par ailleurs, ce que je trouve d'autant plus indigne, c'est que la France, comme puissance capitaliste, qui a toujours essayé de tirer aussi les ficelles au Moyen-Orient, elle a une responsabilité écrasante dans le chaos qu'il y a aujourd'hui en Syrie et au Moyen-Orient.
Il est 9h, nous sommes toujours en direct sur LCP pour questions de méthode avec notre partenaire France Bleu et il est l'heure des questions d'actualité. Nathalie Arthaud, vous avez participé au débat avec les 11 candidats mardi soir. On a appris hier que le débat du 20 avril était annulé. Comment vous réagissez face à cette décision ?
Moi, je le regrette. En même temps, donc, il propose quand même une alternative. Il propose que les candidats soient interviewés à la suite sur toute une soirée. Bon, écoutez, nous, de toute façon, vous savez, je fais partie des petits candidats, n'est-ce pas ? Qui n'a de toute façon pas accès aux grandes émissions politiques. C'est ça, la réalité. De toute façon, moi, je me rendrai disponible pour tout, pour toutes les invitations.
Petit candidat, vous trouvez ça assez, c'est une forme de dénigrement ?
Écoutez, nous, de toute façon, ça ne nous pose pas de problème d'être du côté des petits. Parce que voilà, nous sommes, nous, lutte ouvrière, du côté des petits, du côté de ceux qui sont exploités, opprimés depuis toujours. Et on sait que dans ce monde-là, il n'y a pas beaucoup de place qui est faite aux petits et que les petits doivent se battre, justement. Donc nous, ça ne nous étonne pas, ça ne nous surprend pas. Et on mène ce combat, justement, pour que ceux qui sont pourtant à la base de tout, parce que les travailleurs, les salariés sont à la base de toutes les richesses, ceux qui produisent tout, tout vient d'eux, y compris ces produits de luxe là, qui sont réservés aux plus riches, tous les progrès, les prouesses de la médecine, ce sont les travailleurs. Il faut effectivement qu'ils s'imposent, qu'ils fassent respecter leurs intérêts. Ça dépendra d'eux, de leur conscience, avoir à se battre justement.
Alors dans les petits, Madame Arthaud, qu'est-ce qui vous différencie finalement clairement de Philippe Poutou ? On a un petit peu de mal à comprendre.
Mais ça, c'est pas grave, parce qu'en réalité, on est complémentaires. Et ceux qui voudront voter pour un vote à l'extrême gauche et pour signifier que les travailleurs doivent se battre au travers avec leurs armes de classe, leur grève et leur manifestation,
unir vos forces.
Ils feront leur choix. Ils feront leur choix. Et il n'y a aucune raison d'unir nos forces, parce qu'en réalité, on aurait deux fois moins de temps de parole, on aurait deux fois moins d'arguments, du coup, à avancer, et on aurait une campagne au lieu de deux. Donc, je crois que non, c'est important que, dans ce débat, on a bien vu, d'ailleurs, il y avait deux voix qui, clairement, étaient du côté, du monde du travail, mais avec des sensibilités différentes, malgré tout. Avec des expressions différentes. Moi, effectivement, j'affirme le travailleuse, le travailleur. Et je centre effectivement mes interventions sur le combat de la classe ouvrière, sur la condition ouvrière. Parce que je pense que c'est de là qu'on pourra, que viendront les transformations.
Mais Mme Arthaud, vous savez très bien aujourd'hui, certes, on a bien compris votre combat pour la classe ouvrière, mais vous avez bien saisi qu'aujourd'hui, c'est Marine Le Pen qui est en train d'attirer à elle de plus en plus d'ouvriers.
Justement, parce que je crois que le monde du travail a été complètement déboussolé, complètement désorienté par la gauche au pouvoir, qui à chaque fois a fait beaucoup de promesses et les a trahis, et les a reniés.
Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de désarroi. Pourquoi se tourne-t-il aujourd'hui vers Marine Le Pen et pas vers vous alors ?
Parce que d'abord, vous savez que tous les jours, on nous met dans le crâne que de toute façon, il n'y a plus d'argent, c'est la crise, il faut faire des sacrifices, etc. Donc cette politique de résignation que porte Le Pen, consistant à dire qu'il faut s'attaquer à des plus pauvres, eh bien, ça va dans le sens de tout le courant, si vous voulez. Hein, et puis des préjugés aussi. Et dans les crises, oui, ces préjugés-là
fleurissent. Vous n'avez pas l'impression que vous êtes sur un vieux logiciel trotskiste qui est plus
sûrement
avec les aspirations de la population aujourd'hui.
Et vous voyez, justement, pourquoi Marine Le Pen est-elle si en vogue? Parce qu'elle correspond justement à ce que vous venez de dire. Hein, que voilà, les travailleurs, ils n'ont pas amené leur combat et qu'au contraire, il y a un courant, voilà, il faut se... Hein, le nationalisme, c'est ça, le nationalisme, c'est moderne, c'est pas ringard. Hein, dire qu'il faut se battre entre pauvres, qu'il n'y a pas de la place pour tous, c'est ça qui est moderne. Mais c'est ce qu'on entend tous les jours, voyez-vous, justement, dans les médias. Donc moi, je dis aux travailleurs que non. La condition ouvrière, elle a avancé quand les travailleurs se battaient, toujours. Tout ce qu'ils ont obtenu, ça n'est pas tombé d'en haut. Ils l'ont arraché par leur grève et par leur manifestation. Ça, c'est toute l'histoire du monde ouvrier. Donc moi, j'appelle effectivement à renouer avec ça, avec
donc
cette
politique-là. Vous êtes pour la révolution, finalement?
Je suis pour la révolution, complètement. Mais la révolution, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les travailleurs reprennent le contrôle, la direction de ces grands groupes industriels et bancaires. C'est ça la véritable révolution, qu'on reprenne le contrôle sur nos vies et qu'on ne soit pas dépendant de cette minorité-là, eh bien effectivement, pour gérer ces entreprises de la minorité capitaliste. La révolution sociale, il faut renverser la grande bourgeoisie.
Aujourd'hui,
on parle beaucoup de révolution.
Vous êtes habitué à cette question, Madame Artaud. Vous êtes révolutionnaire, pourquoi est-ce que vous présentez au suffrage universel?
Mais parce que c'est une politique. C'est une politique, c'est un programme, ce sont des perspectives pour les travailleurs. Donc il n'y a aucune raison qu'on ne mène pas le combat politique.
Mais vous avez dit vous-même que vous ne souhaitiez pas être présidente de la République.
J'ai dit que tout président de la République, dans le cadre de ce système capitaliste, était voué à se transformer en pantin de ce grand capital, en pantin de ces grands groupes industriels et financiers qui décident tout seuls dans leur coin, en fonction de leurs intérêts égoïstes, de leur rentabilité, pas du tout en fonction des problèmes de l'emploi, des problèmes de...
Est-ce qu'il peut y avoir une bonne idée chez Jean-Luc Mélenchon dans la 6e République?
Juste pour terminer, moi, je ne veux pas être le pantin de ces grands groupes. Voilà. Donc, effectivement, je ne vise pas ces responsabilités-là. Je veux renverser ce système, comme on l'a déjà expliqué dans cette émission. Ensuite, justement, quand je parle de révolution, je dis que oui, il faut qu'on reprenne, qu'on redevienne souverain de nos vies. Comment peut-on redevenir souverain de nos vies? Eh bien, sans être dépendant d'un grand patron qui va nous dire « toi, je t'embauche, toi, je te verse un salaire ou pas, tu passeras à l'équipe de nuit, toi, tu vas aller travailler à 100 ou à 200 km, toi ». C'est ça, être souverain, c'est effectivement reprendre le contrôle
des... Alors, pourquoi pas cette assemblée constituante, justement, que propose Jean-Luc Mélenchon dans la 6e République?
Mais justement, c'est passer à côté de l'essentiel. Parce que vous voyez, ces grands groupes industriels et financiers, ils ont... prospérer et ils ont imposé leur diktat sous toutes les républiques, sous tous les régimes. J'ai pris l'exemple du groupe Lafarge. Lafarge, il a prospéré, Lafarge Holcim maintenant, puisqu'il a absorbé aussi Holcim. Eh bien, il a prospéré sous la 3e République, la 4e, la 5e, et sous Pétain et Hitler. C'est lui qui a construit le mur de l'Atlantique. Ça ne l'a pas gêné de prospérer même avec Daesh au pouvoir au Moyen-Orient.
Comment vous organisez la société? S'il n'y a pas de président, si...
Moi, je pense qu'il faut une démocratie directe, que bien sûr, il faudra des élections, bien sûr, il faudra élire des responsables, bien sûr, il faudra s'organiser avec des élections. Mais je pense que tout ça doit se faire non seulement pour gérer les affaires de l'État, mais aussi pour gérer les affaires des grandes entreprises. Et je pense que, y compris ces responsables élus, qui auront des responsabilités administratives à l'échelle de l'État, ne doivent pas avoir des privilèges particuliers. Ne doivent pas, et je pense qu'y compris au niveau institutionnel, voilà, je pense qu'ils doivent être payés au salaire moyen aujourd'hui en cours, le salaire d'un ouvrier qualifié, qu'ils doivent être aussi révocables, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui.
Vous avez aussi une vision européenne, vous parlez d'États-Unis socialistes d'Europe. États-Unis socialistes d'Europe, c'est-à-dire quelle Europe voulez-vous? Est-ce que c'est avec les frontières actuelles, avec un espace plus vaste, avec la Turquie dans l'Europe? Quelle est l'Europe de ces États-Unis socialistes d'Europe?
Moi, je pense que l'Europe est une réalité vivante, humaine.
Vous ne la remettez pas en cause.
Ce sont des liens culturels, c'est une économie, tout est interpellé. et voilà, est interreliée depuis déjà, voilà, depuis toujours. C'est une réalité. Moi, j'imagine pas l'avenir avec une Europe découpée en petits morceaux encore plus petits. Pas du tout. Je pense qu'une réalité vivante. Maintenant, si vous me posez la question des institutions européennes, bien sûr, moi, je les dénonce. Elles ont été construites uniquement dans l'objectif de permettre à, justement à ces grands groupes capitalistes de faire leur business et tout. Mais les institutions françaises aussi. Et moi, je dénonce ceux qui nous expliquent dans cette campagne qu'on pourra, avec la Banque de France, avec l'État français, nous, travailleurs, être davantage protégés. Parce que ce n'est pas vrai. On ne sera pas protégés davantage avec une Banque de France ou avec le retour au franc. L'exploitation, elle continuera. Les bas salaires continueront. Cette dictature d'une minorité sur nos vies continuera. Donc voilà, à la fois moi je pense que voilà, le combat qui a à mener, c'est un combat des travailleurs et des exploités contre ceux qui aujourd'hui sont à la tête de la société parce qu'ils possèdent les capitaux.
Est-ce qu'on met fin
à
la directive des travailleurs détachés ?
Mais moi je pense que les travailleurs doivent avoir les mêmes droits. Les mêmes droits, et moi je ne suis pas contre les travailleurs détachés, je suis contre les employeurs, contre les patrons, qui mettent en concurrence les travailleurs les uns contre et les uns face aux autres, qui les opposent et qui essayent effectivement toujours de tirer les salaires vers le bas. Donc moi je suis pour que les travailleurs aient les mêmes droits, les mêmes salaires, et pour qu'on les élève à l'échelle de l'Europe. Mais je suis convaincue que ça ne viendra pas de directives européennes. Ça viendra d'une mobilisation puissante de l'ensemble du monde du travail à l'échelle européenne, effectivement.
Question sur EDF, le conseil d'administration doit se prononcer aujourd'hui sur la fermeture ou non de la centrale de Fessenheim. Il y a 2000 emplois directs ou indirects qui sont concernés. Qu'est-ce que vous souhaitez comme décision ?
Ben moi, ce que je trouve choquant, c'est que tout ça, ça se décide entre l'État, EDF, et puis pas de problème, les actionnaires d'EDF vont bien s'en sortir. D'ailleurs, l'État a déjà mis 400 millions, je crois, sur la table. Mais effectivement, se préoccuper du sort des ouvriers, des salariés, des employés d'EDF de Fessenheim, de cette région-là, et y compris du sort des commerces qui dépendent de l'activité de la centrale, ça, c'est pas leur problème. Et moi, c'est ça que je dénonce. Donc, bien sûr qu'il faut effectivement aussi donner des gages.
Il faut la fermer, cette centrale, ou pas ?
Mais de toute façon, il faudra la fermer un jour ou l'autre. Mais il n'y a pas de raison que ce soit les travailleurs qui en fassent les frais, que leur vie soit bouleversée, que la région entière soit... que la vie de cette ville soit remise en cause, que les commerces. Donc il faut effectivement réfléchir à l'après et donner des gages pour que les salariés et la population puissent continuer.
Vous savez, plutôt pour une prolongation de la centrale.
Pas forcément ça. Il faut que, de toute façon, on respecte effectivement la sécurité pour tous, et pour les salariés en premier lieu, bien sûr, et pour la population. Mais il faut en même temps aussi préserver les emplois sur le coin, préserver les conditions de vie des salariés d'EDF. Et je pense que les deux doivent être compatibles dans une société organisée normalement, où on anticipe, où on planifie, où il y a de l'argent pour les actionnaires. Tout ça doit être compatible et on ne doit pas l'opposer.
Mais il y a la dimension sociale, mais il y a la dimension énergétique aussi dans cette affaire. Ce qui est très important, c'est de savoir qui a le dernier mot finalement. Est-ce que c'est l'État qui décide de la politique énergétique du pays en maintenant ou en fermant cette centrale, ou est-ce que c'est EDF finalement ? C'est une question cruciale.
Non, mais justement, moi je pense que ces décisions-là, elles devraient pouvoir être contrôlées et la population en dernier ressort devrait avoir la main là-dessus. Et moi, en matière par exemple de nucléaire et de choix énergétique, je pense que le premier problème, c'est que tout est opaque, tout est loin effectivement du contrôle de la population, et que le minimum, ce serait que tout ça soit dans la plus grande transparence et qu'on ait chacun notre mot à dire. Mais on doit pouvoir
Il faudrait un référendum par exemple sur cette question ?
Un référendum, ça ne résout pas tout. Ça ne nous donne pas l'accès à toutes les décisions, à tout. Moi, ce qui me choque, y compris dans la filière du nucléaire, et ce que je trouve très très dangereux, c'est cette cascade de sous-traitance, c'est le fait que y compris EDF résonne comme n'importe quelle entreprise, avec la rentabilité, il faut faire des économies, il faut dépenser le moins possible, et c'est tout ça aussi que moi je remets en cause. Il faudrait sortir ça du secteur marchand.
On va parler des affaires, si vous le voulez bien. Nathalie Arthaud, on en a beaucoup parlé dans cette campagne autour de François Fillon. Il y a eu cette prestation de Philippe Poutou assez remarquée aussi lors du débat, qui a parlé à Marine Le Pen en lui disant qu'il n'avait pas, lui, d'immunité ouvrière. On va écouter François Fillon ce matin sur ces questions.
Je n'allais quand même pas m'expliquer et répondre à ces accusations dans un débat à la télévision avec les 11 candidats à l'élection présidentielle. Voilà, je me suis exprimé, j'ai dit que j'avais commis un certain nombre d'erreurs, je ne vais pas revenir dessus, je ne suis pas sur le divan du psychiatre. Je me réserve la possibilité de poursuivre toute personne qui piétine ma présomption d'innocence.
On a assez parlé des affaires, vous pensez, lors du dernier débat ?
D'abord, je constate une condescendance incroyable, quoi. C'est vraiment, il ne va pas. Eh bien, moi, je pense que si. Le minimum, ça serait qu'il s'explique, voilà. Qu'il s'explique, il doit s'expliquer. Moi, je suis écœurée de voir effectivement ces prétendants à l'Élysée nous expliquer que l'élection, c'est la rencontre d'un peuple avec une personne, que le président de la République, il faut l'incarner, la stature, etc., etc. Puis de les voir mentir.
Il
s'était déjà
expliqué, refuser. Il a donné des conférences de presse.
Mais oui, mais y compris là, il explique, hein, présomption d'innocence, tout ça, hein, on n'en parle pas, le sujet est clos, c'est bon.
Mais vous attendez quoi de lui, finalement ?
Circuler, il n'y a rien à voir. Mais il y a un décalage, y compris le fait qu'il se maintienne dans cette élection.
Il aurait dû se retirer.
Et moi, je trouve que ça en rajoute.
Il aurait dû se retirer de l'élection
présidentielle. En tout cas, ça montre que voilà, il trouve ça normal au bout du compte. Il trouve ça normal. Et moi, je tiens à dire que c'est révélateur. C'est révélateur, pas seulement d'un comportement de politique, mais c'est révélateur de tout un monde. Un monde bourgeois qui considère que voilà, tout lui est dû, que c'est normal, que bon, ouais, d'accord, il s'est un peu servi, mais c'est comme ça que ça marche, le système. Et puis c'est vrai en plus que c'est comme ça que ça marche, parce qu'en réalité, les plus riches dans notre société, ce sont des gens qui font rien de leur dix doigts, hein, qui ont des gestionnaires, qui, parce qu'ils sont à la tête de fortune, ils vivent du travail des autres.
La moralisation, ce serait quoi, la moralisation de la vie politique, pour en finir justement avec tous ces soupçons, ce que vous dites ?
Honnêtement, sur le fond, il ne peut pas y avoir de moralisation dans une société qui est basée comme ça, sur l'exploitation de l'homme par l'homme, sur l'exploitation d'une minorité, sur l'exploitation de la grande majorité des salariés par une minorité. Il ne peut pas y avoir de moralisation. Que le monde politique soit à l'image, le reflet de cela, c'est logique. C'est logique. Donc c'est toute la société qu'il faut combattre. Oui, moi je suis révolutionnaire, je pense qu'il faut la changer de fond en comble. Il faut changer ses bases.
Dernière question internationale.
Sinon, parler de justice, de morale... Ce sont des mots en l'air, moi, je crois.
Nathalie Arthaud, je propose qu'on écoute Jean-Marc Ayrault.
Et puis faire en sorte que ça s'arrête, et que ça s'arrête, et qu'on revienne à ce qui a déjà été décidé par le Conseil de sécurité en décembre 2015, la résolution 2254, qui est la base d'une négociation pour une transition politique en Syrie. Et quant à la responsabilité de Bachar el-Assad lui-même, qui massacre son peuple, eh bien, il ne faudra pas que ces crimes restent impunis. D'ailleurs, il y a des enquêtes, des commissions des Nations Unies. Un jour viendra où la justice internationale se prononcera sur Bachar el-Assad.
Quelle attitude faut-il avoir avec Bachar el-Assad ?
Non, mais moi, je dénonce, bien sûr, l'horreur et la dictature de Bachar el-Assad sur son propre peuple, mais je dénonce aussi la politique française, la politique de l'État français, la politique des dirigeants américains, la politique des Russes. En réalité, tout ça, ce sont des... ils sont tous ligués, d'une façon ou d'une autre, effectivement, contre les populations, parce que tous ceux qui sont à la tête de ces États, ils ne raisonnent que pour les intérêts d'une minorité, en termes d'influence, en termes d'intérêts économiques, et donc ils manœuvrent, et alors, un jour on est alliés, le lendemain on se combat, et on dénonce, etc. Mais tout ça, c'est le fruit de leur politique. Le drame des populations du Moyen-Orient, c'est que le sous-sol est plein de pétrole. C'est ça, la réalité. Le drame des populations en Afrique, c'est que voilà, ils ont des richesses minières et ils le payent.
Donc on n'intervient pas en Syrie.
Mais moi, je pense qu'il faut que l'armée française, que les puissances impérialistes qui ont déjà fait beaucoup qui ont produit ce chaos-là, arrêtent, se retirent. Donc déjà, oui, effectivement, retrait des troupes françaises au Moyen-Orient, mais aussi en Afrique.
Merci Nathalie Arthaud d'avoir participé à notre émission spéciale.